Matin à tous, François Bertillon au micro, en remplacement comme à l'habitude pour cette programmation estivale de Jim Boulet. De retour une fois de plus pour votre ciné-brunch du samedi matin et accompagné, c'est son grand retour après une semaine d'absence, Vicky Langlois, bon matin!
Bon matin!
Alors, on est de retour, tandem de feu, de force pour cet été, ben oui. Qui sont là pour vous ramener le gros du cinéma, du moins de ce qui se passe là sur la planète cinéma durant l'été. Et cette semaine, petite semaine tranquille, somme toute, hein, niveau sortie. Je vous ai préparé une critique du dernier Rapide et Dangereux, en fait son spin-off Hobbs and Shaw qui est sorti cette semaine. Sinon, Vicky en profite toujours dans cette quête du rattrapage de l'année. Elle nous revient avec peut-être soit un blockbuster oublié ou un navet, on sait pas trop, hein, on verra bien avec elle, Alita Battle Angel.
Exactement,
on
oui.
On verra où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et sinon, outre nos critiques, on vous a préparé un petit quiz. Et sinon, bien entendu, comme à l'habitude, nos petites actualités. De retour à votre ciné-brunch pour les actualités. Alors, la semaine dernière, j'avais parlé, Vicky, j'avais parlé de ma critique de la semaine sur Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Tarantino. Nouveau film qui a fait beaucoup jaser avant sa sortie, pendant, même après. Hein. Je reviens un petit peu là-dessus justement cette semaine parce que dans les actualités que j'ai retenues, il y a eu la réponse de la fille de Bruce Lee. Hein, on sait que dans le film, il y a une scène en particulier qui met en vedette Bruce Lee, l'acteur légende des arts martiaux, interprété par l'acteur Mike Mo, dans une scène qui est un peu une sorte de... comment je pourrais dire? La scène sert à vraiment faire comprendre toute la coolitude du personnage de Brad Pitt. Hein. Ils vont se rencontrer, les deux, lui étant cascadeur sur un plateau de tournage, Bruce Lee étant bien entendu Bruce Lee. Il va provoquer le personnage de Brad Pitt, celui-ci va renchérir, va finalement avoir un combat entre les deux, et c'est le personnage de Brad Pitt qui va faire mordre la poussière à Bruce Lee. Alors, une scène assez particulière, hein, parce que, bon, vraiment, toute l'idée, je pense, de la scène, c'était vraiment de faire comprendre en quoi consistait le personnage de Brad Pitt. Vraiment, on comprend très bien à quel point il est talentueux au niveau du combat, s'il est capable de battre Bruce Lee, bien entendu. Alors, il y a eu une représentation, oui.
Non, j'essaie de trouver le lien avec la fille de Bruce Lee.
Ah ben, c'est ça, c'est que bien entendu, elle a vu son papa dans le film et ça y a pas forcément fait plaisir. Hein? Il faut dire en fait que la scène nous présente un Bruce Lee qui est un peu, pour le moins, sûr de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de vanter ses talents d'arts martiaux, tout ça, et le fait qu'il perde après contre le personnage de Brad Pitt, ça nous donne une impression peut-être de petit prétentieux, hein, d'un personnage un peu arrogant. En tout cas, loin de l'image qu'on a du Bruce Lee sage, sûr de lui-même, en contrôle et tout ça. Une image qui est très précieuse, bien entendu, aux proches de Bruce Lee. Et c'est là, justement, que j'en arrive avec Shannon Lee, qui est revenu sur le film pour dénoncer une représentation un peu arrogante et prétentieuse du personnage. Et c'est pas la seule qui en est venue à ça, parce que l'un des partenaires d'entraînement de Bruce Lee, Dan Inosanto, a lui aussi renchéri sur la petite polémique de la semaine en dénonçant lui aussi une utilisation onéreuse de l'image de Bruce Lee. Bon, bien entendu, c'est pas la première fois qu'on a un personnage qui a réellement existé qui se retrouve dans un film de fiction. Ceux qui ont vu le film savent que finalement, c'est ça, c'est un personnage qui est au service du personnage de Brad Pitt. Mais tout ça, ça l'a ramené un petit peu la question justement de jusqu'où on peut aller avec l'image personnelle de quelqu'un d'autre, d'une personnalité qui a réellement existé. Il n'y a pas si longtemps, il y avait eu Rocketman aussi qui avait eu ce genre de petits soucis-là, alors que le demi-frère d'Elton John avait dénoncé la représentation qui était faite du père d'Elton John comme de quelqu'un de détaché, qui avait aucun amour pour lui. On sait bien entendu qu'au cinéma, hein, l'idée par la fiction, c'est de transmettre des messages, des émotions, des sentiments, bref, des affects. Et souvent, on va manipuler un peu l'image de quelqu'un pour pouvoir en arriver là. Mais ça soulève un peu la question des limites.
Oui, parce qu'on parle pas d'un personnage, on parle d'une personne qui a réellement existé. C'est pas la même chose, dans le sens où moi, je ne connais pas Bruce Lee et je peux me fier à ça pour avoir une opinion sur cette personne-là. Donc, je comprends d'être un peu insultée parce que ce n'est pas un personnage de fiction. On parle d'une personne qui a bel et bien existé. S'il y avait des gens qui disaient « Non, non, il était vraiment arrogant, ça paraissait pas auprès de sa famille, mais sur les plateaux, il était bel et bien arrogant », je dis pas. Mais là, on dirait qu'on sort ça un peu de nulle part. Et oui, c'est relativement insultant. Je comprends. Et aussi, peut-être par manque de représentation, mais pourquoi qu'on prend Bruce Lee? C'est parce que c'est un des seuls qu'on connaît, tu sais.
C'est une image, c'est le symbole.
Exactement.
C'est là que ça devient fort. Finalement, c'est à se demander, justement, est-ce qu'on peut se permettre d'intégrer des personnages qui ont réellement existé au sein des films de fiction? Ce film-là, Once Upon a Time in Hollywood, il est particulier pour ça, parce qu'on mélange des acteurs qui ont réellement existé avec des faux acteurs, puis il y a toute une idée justement de vouloir confronter cette réalité-là avec la fiction, mais est-ce qu'on peut se le permettre?
Mais tu sais, c'est ça, parce que prends-moi Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal, qui sont effectivement très arrogants comme personnes à l'extérieur, qui sont très imbus d'eux-mêmes. J'accepterais, tu sais, dans l'image et dans leur quotidien. Là, ce qui sort aussi dernièrement, c'est que Jackie Chan, c'est une bonne personne pour le public, mais c'est une très mauvaise personne pour sa famille. Il renie beaucoup de ses enfants. Jackie Chan a des enfants parce qu'il a fait l'amour hors mariage sur plusieurs continents. Il a des enfants et il les renie, dont une jeune demoiselle lesbienne. Il ne veut rien savoir de sa fille parce qu'elle est lesbienne. Elle en fait une histoire, ça est sorti sur les réseaux sociaux énormément.
Okay.
Donc, c'est correct de vouloir montrer le vrai visage des gens, mais si ce n'est pas leur vrai visage, il faut faire attention, je pense.
Ouais,
énormément.
Ouais. Parce que, tu sais, au final, il y a justement cette idée-là qu'on reste dans un film de fiction. Mais justement, est-ce qu'on peut faire confiance suffisamment au spectateur pour qu'il puisse déceler le vrai du faux? Je pense que c'est là justement que la question vient en déranger quelques-uns. Si on ne connaît pas Bruce Lee, comme tu dis,
exactement.
Est-ce qu'on peut vraiment différencier cette image-là fictionnelle qui est faite du vrai personnage?
Mm-hmm. Puis c'est un film de fiction où on ne sait pas s'il serait d'accord. Peut-être que si Bruce Lee était vivant, il serait d'accord avec cette image-là, mais on ne le sait pas. Donc ça aussi, je trouve que c'est un petit peu dérangeant dans le sens où si on veut reprendre l'exemple de Jackie Chan, si on veut mettre Jackie Chan comme une personne un peu plus arrogante que ce qu'il est vraiment, que l'image qu'il représente, mm-hmm. Il pourrait se défendre après sur les réseaux sociaux, il pourrait se défendre dans les médias. Là, on n'a pas personne pour le défendre, fait qu'on ne sait pas s'il est d'accord. Donc il y a ça aussi qui peut quand même jouer dans le sens où c'est correct de vouloir jouer avec l'image publique d'une personne, par exemple un politicien,
mm-hmm.
mais c'est parce que cette personne-là peut par la suite se défendre.
Oui. Oh oui, tout à fait. Ou son entourage aussi.
Oui,
hein?
Exactement.
Parce que là, avec Bohemian Rhapsody, il y a quelques mois, avec Rocketman, on sent qu'il y a comme un regain de popularité du film biographique. Et c'est sûrement ce type de film-là qui est le plus touché par la question. Jusqu'où on peut aller pour exprimer peut-être un sentiment qui éprouvait un personnage en changeant un peu la réalité de d'autres personnages. Comme je disais, il y avait le père d'Elton John dans Rocketman dont le reste du membre de la famille ont dénoncé le fait qu'on en ait fait un personnage froid, sans amour, alors que oui, il y en aurait eu un peu pour le personnage. Ben, pas pour le personnage, pour Elton John. Mais dans le film, on le présente vraiment comme quelqu'un de stoïque et qui vraiment veut rien savoir de lui. D'un côté, je trouve ça intéressant dans un sens parce que... comment je pourrais dire? Finalement, dans le film, on représente un peu l'idée qu'Elton John avait de son père.
Oui, exactement.
Il y a ça aussi, des fois, hein, on va représenter une idée d'un personnage qui n'était pas forcément ce qui était vraiment dans la vie, mais plutôt la vision qu'on en avait, extérieure.
Oui. Et il y a aussi une autre notion, le père d'Elton John n'est pas la figure célèbre. Bruce
Lee.
Ah oui, c'est vrai,
en personnalité publique.
Tu sais, moi, je peux avoir l'impression qu'on m'a menti toutes ces années en me faisant croire que Bruce Lee, c'était une bonne personne.
Oui,
et là, je vais regarder ses films d'une autre manière, je vais regarder les documentaires à son sujet d'une autre manière. C'est pas lui qui a un film Dragon, quelque chose comme sa vie, là, j'aurais l'impression que c'est un mensonge, ce film. Tu comprends, c'est ça qui vient me déranger, c'est que le père d'Elton John... Je comprends qu'on le voit au travers du regard. Moi, tu me fais un film sur ma mère avec mon regard et celui de ma sœur, t'auras pas la même mère. J'en suis convaincue à 100%, ce sera pas la même mère. Et ça, je peux comprendre. Mais c'est pas ma mère, le personnage public. Là, dans ce cas-ci, c'est Bruce Lee. On prend un personnage public et on transforme l'image envers le public que cette personne-là a. C'est un peu...
Une image, dans le fond, à qui les gens ont déjà un certain attachement.
Oui, tu sais, tu veux pas savoir qu'un acteur que t'apprécies, je sais pas moi, Robin Williams, par exemple, j'ai écouté un documentaire sur son sujet dernièrement, il y a eu ses problèmes, mais jamais on l'a décrit comme une personne méchante avec son public.
Mais
tu voudrais pas savoir que cette personne-là, finalement, était méchante et hautaine parce que c'est pas le rapport que t'avais avec lui. Tu comprends? Puis si des années plus tard, on le mettait dans un film comme étant une personne acariâtre, méchante, froide avec son public, au-dessus de ses affaires avec ses partenaires de jeu, ben je comprendrais les gens de faire « Attends un peu, là, il était pas comme ça, tu sais. » Puis parce que c'est pas cette personne-là qu'on me présente. Puis moi, Robin Williams, je le connais d'une certaine manière. Tu sais, on essaie de ternir une image. Je pense qu'il y a vraiment des rapports différents à faire avec ce cas-ci qui sont intéressants.
Les images publiques et images privées. Je terminerai juste là-dessus. Tarantino s'est pas exprimé sur la question, sur le débat, mais Mike Mo, l'interprète de Bruce Lee, lui, est revenu un peu là-dessus. Je cite « Il faut comprendre que c'est un film de Tarantino. Il ne va pas faire ce que tout le monde attend ou veuille qu'il fasse. Vous devez vous attendre à quelque chose d'inattendu. Ensuite, je le savais dès le départ, Tarantino adore Bruce. Il lui rend honneur. » Alors, rend honneur comment? De quelle façon? Bref, tout ça pour une petite scène dans un film de 2h45. Mais je renchéris sur un peu la même question, le même débat, avec une autre nouveauté. Pas tellement, mais cette année, on a eu le droit à Captain Marvel qui avait comme personnage secondaire un Samuel L. Jackson qui avait été rajeuni. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir la bande-annonce du film Irishman de Martin Scorsese qui va rajeunir de 30 ans les personnages de Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. Et on va avoir Gemini Man aussi dans pas très longtemps, un film d'action d'Ang Lee qui oppose un vieux Will Smith à un jeune Will Smith. Bref, la technologie du rajeunissement numérique est de plus en plus en vogue. Et c'est même les boîtes d'effets spéciaux qui le mentionnent. Et je suis tombé cette semaine sur une petite entrevue justement avec l'un des cofondateurs d'une boîte d'effets spéciaux qui est spécialisée dans le rajeunissement numérique. Une question de monsieur Thomas Nittman, qui est cofondateur de Lola VFX, donc une boîte d'effets spéciaux qui a travaillé avec plusieurs films Marvel, entre autres, sur le rajeunissement numérique. Ils sont revenus un petit peu sur les détails des techniques et je trouvais ça intéressant qu'on se penche un petit peu là-dessus parce que ça soulève certaines questions. Je résume rapidement comment il explique ça. Bon, il explique déjà que la technique existe déjà depuis quelques années. On avait parlé en début d'été de X-Men The Last Stand, X-Men 3. il y a une scène au début du film où on a les deux personnages de Charles-Xavier et Magneto qui sont rajeunis. De quelques années, on était à ce moment-là en 2007-2008 environ, et on faisait déjà un peu ce genre de technique-là, mais à l'époque, on était vraiment plus proche de quelque chose qui est un peu comme du Photoshop 24 images par seconde. Maintenant, on a développé vraiment une technique où on va aller faire de la modélisation 3D sur le visage, où on va même par moment remplacer l'acteur par un cascadeur ou une doublure plus jeune pour pouvoir aller chercher la même énergie physique. Parce qu'étant bien entendu, si on rajeunit l'image de quelques années, on rajeunit pas le corps. Hein? Fait que là-dessus, il commence à avoir différents mélanges. On fait même des créations de squelettes numériques maintenant pour pouvoir aller capturer exactement les mêmes mouvements au bon âge, avec la bonne énergie. Mais c'est pas ça qui m'a intéressé vraiment. En fait, c'est plus les aspirations de la boîte Lola VFX qui espère bientôt, dans quelques années, pouvoir faire des scans 3D des acteurs au chaque 2-3 ans pour pouvoir accumuler comme ça une banque d'images de modélisation 3D qui pourrait réutiliser dans quelques années sur d'autres projets de films. Donc ça implique à ce moment-là que les acteurs acceptent à chaque 2-3 ans, comme je disais, de se faire modéliser en 3D pour pouvoir garder ces images-là et pouvoir éventuellement les réutiliser à d'autres fins. D'un côté, je me dis, bon, tant mieux pour eux, ça peut peut-être leur permettre une carrière un peu plus longue, hein, si on peut te permettre d'avoir des images de toi rajeunies, tout ça. Mais ça pose justement des questions sur l'image personnelle aussi, parce que une fois que ces gens-là, je sais pas, décèdent ou disparaissent ou quoi que ce soit, on garde la banque d'images. Est-ce qu'on peut toujours la réutiliser? Il y a une question d'éthique qui va revenir aussi autour de ça dans les prochaines années, au moment où je pense que le rajeunissement numérique est de plus en plus populaire.
Oui, non, c'est correct, je savais pas si tu me prêtais la parole, mais tu sais, ça me fait penser, c'est con, hein, mais voilà quoi, une dizaine d'années, on était tous émerveillés que Céline Dion puisse faire un duo enfin avec le King.
Ouais.
Est-ce que c'est notre peur de la mort qu'on est en train de confronter, là?
Ben, un petit peu, ben c'est sûr qu'eux, ils vont dire, en fait, c'est surtout une question d'avoir de la matière créatrice, hein? Parce que pour le moment, ce qu'ils font, c'est qu'avec certains acteurs, ils peuvent aller chercher des images d'archives pour pouvoir, à partir de là, faire leur modélisation 3D. Mais ça va pas avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui a tout un long bagage, là. Je sais pas, moi, comme un Robert De Niro qui, ça fait des années et des années, qui a joué dans différents films. Et comme on fait remarquer, si on essaie de modéliser à partir d'anciennes images, mais ces anciennes images-là sont pas prises à partir de Robert De Niro plus qu'un personnage avec ses mimiques, avec ses mouvements, tout ça. Donc, ça serait un peu leur justification pour promouvoir ce genre de technique-là. Mais ça me faisait penser, justement, tu parlais de Robin Williams.
Oui.
Lui, justement, a été le premier dans son testament à écrire qu'il demandait à ce que personne ne réutilise ses images pour des prochains films ou quoi que ce soit. Lui, il l'a vu venir, justement, mais je me dis, d'autres acteurs comme ça, comme par exemple Will Smith, qui forcément a été modélisé pour le prochain film, est-ce qu'il va devoir faire un contrôle de sa propre image? Est-ce qu'il va même pouvoir jouer dans des films sans jouer dans le film?
Oui, puis est-ce que c'est pas un laisser-aller de son image, de dire qu'est-ce que... Tu sais, après ça, c'est une corporation qui possède ton image, c'est une tant bonne idée, ils peuvent te faire dire n'importe quoi, ils peuvent te faire faire n'importe quoi.
Oui, c'est une grosse question de contrôle de soi, là, qu'il faut faire attention.
C'est laisser-aller vraiment énormément son image. Puis on parle pas de ce qu'on projette, on parle de sa personne, de son intégrité physique.
C'est
de donner accès à son intégrité physique à d'autres mouches. Moi, je pense que c'est vraiment...
Je sens un petit peu réticente.
Oui, parce que je sens que c'est notre nostalgie qui embarque, notre peur de la mort, notre peur de vieillir, notre manque de contrôle sur le temps qu'on ne sait pas comment le gérer. Puis c'est une solution à rabais, même si ça coûte super cher, mais tu comprends l'expression.
Oui,
c'est une solution bancale un peu pour se dire, on regarde, je ne mourrai jamais, même après ma mort, vous allez pouvoir me voir. Ouais, mais sac-nous patience, t'es mort.
Oui, il y a ça. Il y a ça. Mais je sens aussi que on est beaucoup dans l'argument de vente. de dire, hein, tu sais, tu vas aller voir dans le film justement un jeune Will Smith, hein, nanana, si on réussit à le faire. Parce que, ben, je veux dire, avoir différents acteurs qui jouent différents personnages à différents âges, ça se fait depuis des années et des années quand même.
Oui, oui.
C'est pas quelque chose qui a nuit à différents films.
Pour une anecdote, en fait, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'écoutais des films, puis on voyait, mettons, les enfants, puis là, 10 ans plus tard, ils se retrouvaient, puis tu sais, ils se ressemblaient pas parce que c'était deux acteurs différents. Moi, je me suis toujours dit, mais comment ils font pour se reconnaître? Ils se reconnaissent pas. Comme je comprenais que c'était deux acteurs, mais moi, j'accrochais tout le temps, hein. Ils se ressemblent pas, c'est pas le même. Comment t'as fait pour le reconnaître? Je me disais tout le temps, moi, à 30, 40 ans, personne va me reconnaître. Si c'est ça le changement drastique que je suis censée opérer, si je rencontre quelqu'un à l'âge de 10 ans, il me reconnaîtra jamais à l'âge de 30. C'est impossible. Si c'est ça les changements qu'on est censé avoir de la jeunesse à l'âge adulte. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une espèce d'idée de contrôler le temps. Oui, c'est pour le cinéma, pour l'instant. Mais pour l'instant, tu sais, on nous dit que on est surveillé, mais moi, je pense qu'on est contrôlé. Et ce contrôle de l'image-là pourrait vraiment permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi à l'aide de n'importe quel visage. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment effrayant.
Alors, avis à tous, faites attention si quelqu'un veut vous modéliser en 3D. Peut-être que vous allez jouer dans un mauvais film dans quelques années. Qui sait?
Et voilà.
Une fille comme les autres.
Quoi, il y a un problème?
Tu te souviens pas?
De quoi tu parles?
Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut.
C'est que je vaux pas grand-chose, alors.
Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire.
Non! Je suis pas ta fille.
Ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Alors, Alita Battle Angel, film qui était sorti en janvier dernier.
Oui, autour de ça,
environ,
oui.
Environ, réalisé par Robert Rodriguez, produit par James Cameron. Tu l'as vu cette semaine. Qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est vraiment marrant qu'on parle de ce film-là. C'est un hasard total. Tu m'avais parlé que tu voulais parler du numérique. Et moi, je pensais que c'était encore une affaire de streaming. J'avais pas compris que tu voulais parler de modélisation. Donc
de rajeunissement.
De rajeunissement. Oui, oui. Et on parle d'Alita. Et je vous jure, auditeurs, c'est un hasard total. Parce que Alita, c'est l'histoire de la manière que c'est fait. C'est un film entièrement 3D. Avec, entre autres, comme personnage principal, un modèle entièrement fait de 3D et de CGI.
D'un acteur rajeuni?
Une femme. Tu vas voir, elle lui ressemble énormément, mais à l'écran, elle est en animé, alors que tous les autres sont faits de chair.
OK. Puis justement, là, d'un point de vue technique, qu'est-ce que t'en as
pensé? Donc, on transpose l'animé et la chair à même l'écran.
Oui.
Ce film-là, il va rapidement passer du statut du film culte.
Ah oui?
Tu demandais à l'introduction, est-ce que c'est un blockbuster qui a moins fonctionné? Effectivement, tu regardes la bande-annonce. Dans la bande-annonce, elle dit c'est le film que vous devez voir au cinéma. Conjoncture, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce film-là a été moins vu au cinéma qu'on en pensait. Il a fait moins le buzz qu'il aurait dû, mais il est allé chercher un public de fans qui va le rendre culte. Je te garantis, ce film-là, tu vas en entendre parler encore pour les 5 prochaines années. Tu vas arriver chez quelqu'un va te prêter son Blu-ray en disant « As-tu vu Alita? »
Alors, convainc-moi, pourquoi est-ce qu'Alita Battle Angel va devenir un film culte?
Parce que l'histoire est bonne. Moi, personnellement, j'ai pas énormément accroché parce que je suis quelqu'un qui stick sur les détails et je trouve qu'on a énormément négligé les détails. Par contre, je peux te le dire que moi, depuis qu'il est sorti en Blu-ray la semaine dernière, je l'ai vu passer à peu près 40 fois dans mon fil Facebook de fan de cinéma de « Enfin, j'ai mis la main sur Alita ». Alita, c'est l'histoire d'une femme robot entièrement reconstruite par le personnage de Christopher Waltz. Elle ne se souvient pas de qui elle est, elle ne se souvient pas c'est quoi son objectif, mais elle comprend qu'elle sait se battre. Et plus le film avance, plus elle va avancer dans ses souvenirs et plus elle va se souvenir quelle est sa raison d'être. nous sommes dans un ère post-apocalyptique. Il y a eu l'apocalypse, il y a une station au-dessus de la planète, si on veut, et Anita se réveille dans le Iron City, donc la cité de métal, et tout le monde a pour objectif d'aller sur, je l'écoute en français, mais d'aller à Salem, qui est en haut, qui est une espèce de station balnéaire flottante au-dessus d'Iron City, qui semblerait être le paradis.
Une genre de métaphore des classes
Exactement, sociales. Exactement. Tout le monde rêve d'y aller, tout le monde fait des magouilles pour atteindre Salem. Tout le monde autour d'Alita aussi font des magouilles, et elle comprend pas pourquoi tout le monde veut aller là, parce qu'elle vient de se réveiller à cette place-là, et c'est beau, c'est le fun, les gens sont le fun. T'sais, oui, il y a de la criminalité, oui, mais elle comprend pas cet objectif-là. Et plus elle rencontre des gens, plus elle comprend que le désir d'aller à Salem pourrit énormément le cœur des gens. Elle comprend, elle se souvient aussi plein de choses que je vais pas vous dire parce que c'est des spoilers et je voudrais que vous voyiez le film, mais le film est vraiment beau parce que justement c'est un film entièrement 3D, donc dans des univers modelés, dans des univers imaginés, mais qui ne sont pas faits de maquettes, mais vraiment que d'ordinateurs.
Et c'est convaincant.
C'est convaincant. Par contre, tout ce que moi je suis moins convaincue, c'est sûr que c'est un film 3D, donc le voir en HD, tu peux voir un peu plus les défauts. Mm-hmm. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui remarque énormément les détails et je trouve que certaines scènes sont négligées au niveau, mettons, des personnages secondaires ou des... Par exemple, à un moment donné, il y a une course entre deux personnages pour qui s'enfuient. Et je me suis souvenu de... j'ai un blanc du nom du film, super culte en plus, mais pardonnez-moi.
Rollerball, peut-être?
Non. C'est pas grave, c'est pas important. Blade Runner. Bon, Blade Runner. Je me suis souvenu de Blade Runner quand il court dans les rues, vu que ce n'est pas des maquettes et des modèles, mais vraiment un plateau. Je sentais que c'était pas d'une seule... plan de caméra. On pouvait vraiment voir cette course effrénée dans la rue. Là, on est très plan unique de caméra, comme une planche de dessin. Mm-hmm. Donc, c'est ça que je veux dire par « moi, je souffre dans le détail ». À un moment donné, on rentre dans un bar, j'ai l'impression que la scène a été filmée par un étudiant du cégep parce que tous les personnages secondaires sont clichés, relativement vides, parce que probablement que l'objectif, c'était de mettre du relief dans le 3D de cette scène-là, plus que de donner de l'importance à ces personnages-là. Mais moi, ça m'a tombé sur les nerfs, ces moments-là.
Depuis le début de la promotion, il semble que le film s'est beaucoup vendu sur son argument technologique.
Exactement.
C'est vraiment
donc,
ça.
Donc, le voir à la maison peut être relativement décevant. C'est sûr que vous avez tout le système et tout, et si vous vous attardez pas à ces détails-là, parce que les batailles sont vraiment belles,
ouais.
Les effets spéciaux sont bien faits, les courses sont bien fait, l'image est vraiment bien faite, l'histoire est bonne, c'est vraiment moi parfois dans le détail j'accroche parce que je me dis ça tu vois, je le sens que c'est un dessin, t'sais, j'aurais aimé ça le voir plonger à quelque part, pas avoir l'impression qu'il plonge dans un écran vert mais qu'il plonge pour vrai.
Ben, tu vois, je t'écoute parler et ça ressemble beaucoup ce que tu dis à ce qu'on reprochait à un autre film de James Cameron, Avatar.
Oui, peut-être,
on est
oui,
un peu
oui,
là-dedans,
oui.
Ouais, dans la même idée que c'est vraiment un film, une mise en scène qui est magnifique, la technologie vraiment qui est là, mais le synopsis en tant que tel, peut-être.
Ben, tu vois, moi, j'ai préféré l'histoire d'Alita. Aussi, il faut savoir que, pour pas que les gens soient déçus, Alita était. Est présenté comme un film en deux parties. Certains le savent pas, donc la fin peut laisser vraiment désirer en disant « Ah, il n'y a pas de fin. » Non, c'était voulu. Puis c'est déjà annoncé qu'elle va exister, ça va aller au cinéma, il n'y a pas de problème, ça va se rendre.
Okay.
Donc, faut pas être triste. Mais moi, quand je l'ai écouté, je le savais. Mon ami l'avait déjà vu, puis il dit « Ah, oh, j'ai oublié de te dire, ça finit de même. » Je suis comme « Ben non, c'est correct, je le savais, j'en ai entendu parler. » Il dit « Ah, oh, phew, parce que pour certains, c'est vrai que ça peut être décevant. » Donc, je vous suggère Alita, mais comme je vous dis, l'histoire va être bonne, mais ça se pourrait que vous accrochiez peut-être comme moi des petites affaires gossantes. Mais c'est minime, mais c'est Jennifer Connelly qui serait mariée avec Christopher Waltz. Comme « Ben non, tu sais, ils ont 20 ans de différence, ça marche pas. »
Okay,
c'est déjà de détails.
Mais bref, en gros, Alita Battle of Angels, si on n'a pas vu cet hiver, donnez-lui une deuxième chance.
Oui, vous pourrez tomber dans le culte.
Et dans presque quelques années, ben, vous pourrez vous vanter de l'avoir vu.
Et voilà.
Alors, on se quitte pour notre première partie. On se revoit pour notre deuxième, alors que je vous fais la critique de Rapide et Dangereux Hobbs & Shaw. Et on finit avec un petit quiz. À tantôt.
Luke Hobbs et Deckard Shaw, on a un compte à régler. La sœur de Shaw m'a volé quelque chose. Un virus qui peut décimer la moitié de la population. Et je veux le récupérer.
Tu peux me dire ce qu'il en est exactement ?
De retour à Cinébrunch, deuxième partie, François Berthiaume au micro avec vous, accompagné de Vicky Langlois pour notre programmation estivale. Et cette semaine était la sortie du 9e film de la franchise Rapide et dangereux. Premier film dérivé de la franchise alors qu'on utilise deux personnages secondaires, soit le personnage de Dwayne Johnson et de Jason Statham, pour leur donner leur propre film à l'occasion de ce Fast and Furious présente Hobbs and Shaw. Film body cop movie, comme on dit, duo policier qui enquête sur une certaine affaire de virus, domination mondiale. Ils doivent contrecarrer les plans d'un grand méchant, très méchant, interprété par Idris Elba, qui est lui une sorte d'humain augmenté par la technologie et qui va s'opposer aux deux personnages de la franchise Rapide et dangereux. Je me posais justement un petit peu la question en préambule du film, justement. Je me disais, pourquoi cette franchise-là, Rapide et dangereux, réussit autant à se renouveler? Tout le monde fait la blague. Maintenant, si tu regardes le premier Rapide et dangereux et tu regardes le dernier, c'est le jour et la nuit. On est complètement ailleurs.
Oui, totalement, totalement.
Et pourtant...
Fans sont toujours là.
Les fans sont toujours là, mais j'ose m'avancer en disant peut-être qu'ils vont commencer à déserter en quelque part. Je pense que l'intérêt vraiment... que les gens ont pour cette franchise-là, Rapide et dangereux, c'est que ça met en scène à la base des héros de la rue. Mais vraiment, c'est ça qu'on mettait de l'avant dans les premiers, de la rue, de la ruelle, avec vraiment les mêmes intérêts et enjeux qu'un peu tout le monde, soit la famille. Hein, vraiment, on en fait des blagues là, sur ce cliché-là de la famille qui revient dans tous les Rapides et dangereux. Mais je pense sincèrement que c'est ce qui a rallié les gens pendant aussi longtemps. Hein. On se rappelle, pour le 7e opus, au moment où Paul Walker est décédé, il y avait justement toute cette union-là de l'équipe de tournage qui, je pense, en avait ému certains quand même devant le film et même avant. Mais donc, la franchise, elle, a toujours continué à se renouveler. On est parti de films de course de rue pour aller vraiment à des films d'action. On est allé emprunter un peu partout aux Missions Impossibles, par exemple, à John Wick avec ce nouveau film-là, réalisé par David Leitch, qui avait travaillé lui aussi justement sur un John Wick. Et on est à la lisière d'un film justement entre John Wick, Transformers, les films policiers des années 80. Je pensais à Commando avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Film qui ne fait aucun sens, mais qui a comme vraiment seule mission et but de divertir et d'amuser. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec ce film-là, qui réussit pendant les 30 premières minutes. Parce que pour le reste du film-là, on commence à être sévèrement gavé par un peu la même sorte de mise en scène qu'on revoit depuis quelques films dans les Rapides et dangereux. Les 30 premières minutes, on a des acteurs qui sont au meilleur de leur forme, qui ont du plaisir, qui transmettent. On a une mise en scène aussi qui essaye des choses nouvelles. On a un montage alterné entre les deux personnages qui vivent leur petit quotidien à chacun, leurs petites bagarres, leurs petits enjeux à eux, qu'on voit en même temps une réalisation qui est quand même, ben pas innovante, mais qui est inventif. Scène d'action qui est dans le néon, plongée dans le bleu, dans le rose, c'est très intéressant, c'est très beau visuellement, mais du moment qu'on quitte ces 30 premières minutes-là, on revient avec le même genre de surenchère qu'on a déjà eu dans les autres films, et... Vraiment, le film souffre d'un syndrome qu'on revoit dans beaucoup de films d'action depuis quelques années. C'est le quatrième acte qui s'allonge et qui s'allonge. On arrive à 1h45 du film où on a une scène d'action qui semble conclure comme un sort de climax. Et ensuite, on a un autre 45 minutes qui se rajoute à ça et qui vient en rajouter et en rajouter. Et on finit justement par se dire que trop, oui, trop, c'est pas assez. Je sais qu'il y en a qui ont dit que ce syndrome-là, ce problème-là était déjà dans les précédents films oui. Rapides et dangereux. Oui. Mais peut-être que, et ce qui me fait dire ça justement, c'est les résultats au box-office du film, peut-être que c'est à la longue que les gens commencent vraiment à trouver que cette surenchère-là est nuisible. Parce que le film a, oui, fait un bon score là, pour le moment au box-office, mais est en deçà de ce qu'ont fait les précédents Rapides et dangereux.
Mais l'équipe originale n'est pas là. Et moi, je pense que ça en souffre.
Peut-être. Peut-être que les gens se sont trop ont trop misé sur l'image de Dwayne Johnson et de Jason Statham. Image que, et c'est un autre problème que j'ai eu avec le film, commence à être sérieusement galvaudée. Parce que Dwayne Johnson, bon, oui, ce n'est pas un acteur à la base, c'est un lutteur, mais il reste que dans tous les films qu'il joue, c'est Dwayne Johnson qui l'interprète, et autant c'est bien qu'un acteur veuille promouvoir un peu sa culture personnelle polynésienne, Samoa, au sein de ses films, au sein de ses personnages, mais avec la redondance que ça donne, finalement, ben, on perd du punch, on perd de l'effet. Hein, dans ce film-ci, comme dans tous les films de Dwayne Johnson, on a des gags sur ses sourcils, des gags sur ses biceps. Il va faire un haka, il va faire référence à sa culture samoise. C'est pas mal, mais ça commence à le rendre vraiment très peu intéressant. Il y a quelques années, Dwayne Johnson, c'était quand même un des derniers acteurs qui pouvait vendre un film seulement avec son nom.
C'est drôle que tu me dises ça parce que je trouve que c'est tout le contraire de Jason Statham qui peut encore vendre un film avec son nom parce que Jason Statham se renouvelle
oui,
constamment.
Exactement. Et c'est pour ça que des deux, c'est vraiment le personnage que j'ai le plus apprécié du film parce que oui, celui-là, on sent moins l'acteur, donc on découvre un peu plus le personnage et ça fait du bien.
Jason Statham, c'est un des seuls gros bras d'Hollywood qui peut jouer autant les méchants que les bons.
Ouais.
Il a commencé sa carrière en étant un méchant dans, par exemple, le film Le Cellulaire, là, ouais, entre ouais. autres. Un petit bum un peu incognito, un peu faire valoir du méchant qui aurait un bon plan. Mm. Après ça, il est allé vers les transporteurs. Après ça, il est allé vers le mécano. Mais il est tout le temps capable de se déplacer. Parfois,
ouais.
il est bon. Parfois, il est méchant. Et c'est ça le plaisir de découvrir un personnage de Jason Statham, c'est que tu le sais pas si
ouais.
au départ c'est une bonne personne ou un mauvais. C'est sûr que quand il joue une bonne personne, souvent il y a un fond méchant, genre ne te colle pas à toi, à moi, femme,
ouais.
Je ne suis pas bon pour toi. Tu sais, comme hyper cliché de ne tombe pas en amour avec moi, je ne serai pas satisfaire. Puis là, finalement, ils font l'amour, puis ça a l'air super génial. Mais ce
oui.
que je veux dire, c'est que Jason Statham, il a ce pouvoir de te surprendre dans un film
ouais.
énormément, et moi, dans un film d'action, je suis encore vendue par Jason Statham.
Ouais.
Au contraire de Dwayne Johnson, je n'ai jamais été capable.
Mais
je suis désolée, mais moi, je n'ai jamais été capable.
Je pense que Jason Statham aussi, ce qui aide, c'est que l'acteur est beaucoup plus discret publiquement. Je pense que c'est ça aussi qui peut galvauder certaines personnes de Dwayne
oui.
Johnson. Il est tellement omniprésent
oui, hein.
partout.
Puis as-tu vu sa publicité de Jason Statham pour, je pense, c'est LG?
Non.
Une excellente publicité où il joue tous les personnages, genre de la grand-mère au bébé, mais c'est juste sa face mise sur tous les
ah
personnages.
Ouais.
C'est génial, ça montre à quel point il peut tout faire, mais qu'il sait rire de lui-même aussi. Fait que c'est juste Jason Statham qui s'enfuit de Jason Statham
ouais.
et qui devient chacun des personnages au fil de cette publicité-là. Je vais te la montrer après le spectacle. Et s'il y en a qui veulent aller sur leur téléphone et chercher ça sur YouTube, la publicité de Jason Statham, c'est excellent. C'est vraiment excellent et ça montre à quel point ce gars-là est hyper versatile.
Oui, vraiment. Donc, bref, en gros, Hobbs & Shaw, un bon court-métrage pour les 30 premières minutes. Pour le reste, vraiment, c'est à oublier.
Ça aurait dû être par les productions de Rapide et Dangereux et refaire un film au complet. Ça aurait pas dû être un dérivé de Rapide et Dangereux.
Ah non, ben c'est ça. Tout le monde a le fantasme à Avengers là, de vouloir vraiment
oui.
éclater ses films en différents produits dérivés. Est-ce que ça va marcher pour Rapide et Dangereux? Seul l'avenir nous le dira, mais en attendant, je vous recommande le début, mais pas le reste. Et c'est le temps, tout le monde, de s'amuser avec notre premier petit quiz de l'été, Vicky.
Oui, un petit quiz à saveur caféinée. Oh. Les auditeurs se sont sûrement rendus compte que je n'ai pas la même énergie que d'habitude. La maladie s'est installée dans ma gorge, entre autres. Et j'ai besoin de beaucoup de caféine ces temps-ci pour travailler et juste me lever, finalement.
Mais après tout, Vicky, c'est samedi matin. Tout le monde est avec son café.
Exactement, on est à Cinébrunch après tout. Et j'ai décidé, non pas de faire un quiz comme je l'ai fait régulièrement à plusieurs volets, mais vraiment d'y aller cibler avec des scènes ou des choses qui tournent autour du café et qui font du bien. Donc, à vos crayons, si vous voulez voir les séries ou les films dont il sera question, mais je vais te passer à l'épreuve. Parce que je me suis dit, faire un quiz simple, A, B ou C, il n'y a pas d'autres compétiteurs, ça serait assez...
Ça serait peut-être assez facile.
Alors...
Okay, essayons. Là.
Alors, si je te dis une série en 8 saisons qui explore entre autres l'univers du café, mais beaucoup les hipsters, et toute la saison tourne autour de plusieurs personnages, mais seulement deux acteurs, Fred Armisen et Carrie Brunstein.
Déjà, je dirais série télé, je m'y connais un petit peu moins.
Ok.
J'ai peur, là.
Des épisodes à sketch?
Community?
Non.
C'est Parks and Recreation?
Non.
Ah, maudite affaire.
Parklandia.
Parklandia.
Connais-tu Parklandia?
Non, pas du tout.
C'est excellent. C'est le genre de truc que tu dis ça, c'est parti du web. Puis ça a juste éclaté. Finalement, non, ça a vraiment eu du financement. Ouais. Et c'était vraiment le concept même. On a deux acteurs qui vont faire tous les personnages et ça fonctionne. C'est drôle, ça s'appelle Parklandia. C'est okay. Sur une petite ville qui serait trop hipster pour le reste de l'univers, en Oregon. Et tout ce que vous pensez connaître du monde de l'hipster se retrouve là. La série, elle a fini en 2018. Je pense que c'était suffisant. Je n'ai pas écouté toutes les saisons, mais à un moment donné, le thème du hipsterisme, on fait le tour.
On a fait le tour.
Par contre, beaucoup d'autodérision. Et moi, je me souviens d'un épisode, justement, où nos amis, parfois, ils sont eux-mêmes, là, Carrie et Fred, mais d'autres fois, ils sont d'autres personnages. Mm-hmm. Et là, Carrie et Fred explorent leur ville. Et là, ils ont trouvé le coffee shop le plus miraculeux au monde parce que il n'y a jamais de fil aux toilettes. Puis on va se le dire, au nombre de cafés qu'on boit, on a tout le temps envie de caca.
Et là, tu as tout un sketch
sur tout le monde qui dit à quel point il admire les toilettes de ce coffee shop-là parce qu'on peut tellement bien y faire caca. C'est génial. C'est cette espèce d'autodérision. On a une autre scène qui n'est pas sur le café, mais on a juste nos deux amis, ils sont sur le sofa, puis là, ils écoutent une série, puis tout. Puis là, mais dans le prochain épisode, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et là, il regarde le coffret DVD, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autres disques et c'est la fin. Et là, la crise, le hurlement dans le salon qu'on a tous vécu. Et après, la peine. Là, après ça, tu dis, on réécoute-tu les 5 dernières minutes juste pour être sûr qu'on a bien compris que c'est de même que ça finit. Et c'est magnifique. Vous allez vous reconnaître énormément dans la série Parklandia. C'est très actuel. Ça a commencé en 2011, mais je trouve ça très rafraîchissant. Je trouve que ça explore énormément les gens que nous sommes aujourd'hui par rapport à notre univers, notre café, notre consommation. On parle, mettons, d'un restaurant brunch où on prend une heure d'attente avant d'y rentrer parce que c'est la place en ville où aller.
Okay.
Donc, c'est totalement génial.
J'ai peur que l'India a découvert autour d'un petit latte.
Et voilà. Ensuite de ça, un film dont le nom commence par café. On en a parlé dernièrement.
Coffee and Cigarettes.
Et voilà! Coffee and Cigarettes.
Oui! Moi, j'ai connu quand même.
Oui, mais il est disponible pour les gens de Sherbrooke, il est disponible à la bibliothèque ici en location, si vous voulez. Ce film-là, moi, j'ai quelques scènes qui m'ont marqué, mais une énormément. La fille du chanteur de Rose Band, c'est bien Elizabeth ou Liv Tyler est au restaurant et elle incarne sa propre personne, Liv Tyler, et t'as le petit commis de restaurant qui veut aller réchauffer son café, puis il shake, puis pour y mettre du café, il en met juste un peu dans sa tasse, et là, elle se retourne vers son gars de café, l'air bête, pas possible, puis elle fait « Pourquoi t'as remis du café? Je venais d'atteindre la température parfaite, la recette parfaite, tu m'en as remis, puis tu me l'as pas demandé, mais c'est sûr qu'il a pas demandé, t'es bien trop gêné devant cette prestance, qui est une très belle femme aussi, Liv Tyler. »
Oui, absolument.
C'est l'échange entre les deux et ça m'a fait juste penser, cette scène-là pourrait encore fonctionner aujourd'hui, mais avec les Instagram. Tu sais, oui, là, oui, avoir oui. le latte parfait, le dessin parfait, puis oui. t'as gâché mon latte. Moi, je m'en allais prendre une photo de ce latte. T'as osé gâcher mon latte.
Tout ce film-là pourrait se refaire aujourd'hui, puis ça oui. serait très intéressant, parce que, si je me souviens bien, corrige-moi si je m'abuse, mais le film, dans le fond, est une série de rencontres, discussions autour d'un café.
Oui, ouais. et le café, c'est mythique pour ça. Dans le cinéma, oui, là, oui, une oui. scène dans un café, généralement, c'est une scène de pause et d'explication.
Exactement. Oui, ben c'est le meilleur prétexte à l'exposition oui. de l'histoire.
C'est un endroit... la scène autour du café, c'est un endroit de confession,
oui.
mais rarement pathétique. Mm-hmm. La scène de confession pathétique va être sur le bord d'un bar. Tu sais, là, avec son petit
oui,
scotch, son petit
quelque
whisky.
Chose de plus dépressif.
Ouais, tu sais, dans une tamisé. Là, on est plus ouais. dans la confession ouais. pathétique, là, le ouais, drame. Ouais, ouais. Autour du café, on est dans la confession énergique.
C'est même romantique, des fois.
Oui, romantique aussi. Ouais. On est dans une confession... on a beaucoup d'énergie autour du
on
café.
Est dans on est dans l'intime. Là. On, oui. on discute là, entre nous. Puis,
Oui, exactement. On est dans l'intime et dans la discussion. Mm. Mais aussi, le café peut oh. venir à révéler un criminel.
Oh, OK. Ah! Vas-y, je te laisse.
Exactement, des gens suspects, Kaiser Soze. Oui. On donne-tu les détails? On se dit-tu qu'il est rendu ici?
Rendu là,
tout le monde le sait. Alors, des joueurs suspects, nous avons affaire à un homme qui invente, au fil de l'interrogatoire de police, qui invente le récit. On s'en rend compte qu'à la fin, que tout au long qu'il était assis devant l'inspecteur de police, il a mm-hmm. tout inventé de A à Z, dont son le nom du criminel, ouais. qui est Kaiser Soze, qui est finalement la marque de la tasse de café qui est sous mm-hmm. la tasse de café du détective. Donc, à chaque fois qu'il prend une gorgée, le criminel devant lui a vu Kaiser Soze et c'est comme ça qu'il a créé le criminel parfait sur lequel on pouvait mettre les crimes. Alors, cette fois-ci, on est dans la révélation, mais la fausse révélation, pareil.
Oui. Ah oui, puis ce que j'aime de cette idée-là aussi, c'est que le café représente aussi l'élément, la tasse de café. Il y a quelque chose de banal là-dedans. Hein. Ça fait partie du quotidien, en hein, quelque part, puis c'est le génie, en fait, de cette fin-là. C'est que personne n'aurait pu prétendre que la tasse de café avait un quelconque lien avec tout ce qui se racontait, tellement c'est simplement un objet du quotidien banal.
Exactement.
Mais une belle utilisation.
Très belle utilisation. Oh, oui. Ensuite de ça, le café pour nous faire apprécier un personnage.
Ah, OK.
Thor. Dans le tout premier Thor, on le trouve arrogant, ouais. chiant. Imbu de lui-même. Ah, il est cute, il est beau, c'est un dieu, il est beau. Mais c'est une fille qui nous tombe ses nerfs. Il nous tombe ses nerfs. Mais il se ramasse au restaurant, il boit son café, il trouve ça bon,
il casse à terre en disant «
J'en reviens un autre, madame, mademoiselle. Oui. Qu'on m'en amène un autre! » Et il casse à terre, et c'est là que tu fais « Mais c'est un mésadapté total! » Et là, il switch, c'est à ce moment-là que le spectateur switch. Cet homme est mésadapté.
Oui,
il est si au-dessus de ses affaires qu'il n'est pas capable de comprendre que ces choses-là ne se font pas. Et c'est là que tu constates que, OK, mais c'est un enfant.
Un poisson hors de l'eau, c'est vraiment...
C'est un enfant. Oui. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là dans le film que tu ne le regardes plus avec dédain, mais avec un peu de pitié. Oui. Donc, le café aide tant dans une scène humoristique c'est à nous vrai. Le replacer.
Un petit effet comique avec ça. Oui.
Toujours dans le monde du super-héros. Moi, cette scène-là ne m'a pas marqué, mais elle paraît dans toutes les listes des meilleures scènes de café. Donc, on va la faire pour nos auditeurs.
Allons-y.
Peut-être que...
Ben oui.
Film de super-héros réalisé par Michel Gondry.
Ah, c'est The Green Hornet.
The Green Hornet.
Oui, avec Seth Rogen.
Avec Seth Rogen, exact. Il paraît qu'il y a toute une femme sur le café. J'ai pas énormément de souvenirs là-dedans, mais les scènes se retrouvent sur YouTube et on voit qu'il y a l'art du café avec la grosse machine et tout, comme si c'était d'une grande importance. Je sais qu'il y a quelque chose avec le père du frelon vert, là, le père du Green Hornet qui aimait le café puis que ça a été transmis de...
Oui, il me semble. Mais ce film-là serait peut-être un film aussi à redécouvrir maintenant avec toute la surconsommation de films de super-héros qu'on a eu depuis quelques années. Je pense que Michel Gondry, à l'époque, avait fait quelque chose de peut-être un peu trop poussé ou référencé.
Ouais, ben moi, je l'ai réécouté, j'ai trouvé ça encore plate.
Ah, bon, ben écoute.
Mais je vous laisse le réécouter si vous voulez.
Je me suis essayé, mais si c'est plate.
Ben moi, malheureusement. ensuite de ça, j'y vais avec une autre scène culte d'un film que j'ai pas tant apprécié, mais cette scène-là m'a marqué incroyable, peut-être parce que je travaille comme serveuse. Un film de David Cronenberg, Avec Viggo Mortensen?
Story of Violence.
Te souviens-tu quand ils se battent dans le café?
Oui, ben oui, ben oui.
C'est
la scène du film.
C'est la scène du film. J'en ai des frissons. Moi, j'ai pas tant aimé ce film-là. Je me suis pas tant ressentie dans les personnages, donc j'ai pas accroché à la quête. Mais cette scène-là m'a marqué.
Ouais.
Moi, je suis serveuse dans la vie, là. Puis là, je prends un pot de café. Je peux-tu assommer quelqu'un avec ça, là? Tout devient une arme dans cette scène de café, c'est incroyable.
Ouais.
Cette scène-là aussi, je pense que les gens doivent la redécouvrir pour la chorégraphie de la scène. Mais le film, en fait, a des chorégraphies de bataille vraiment incroyables, portées sur le corps, c'est magistral.
Oui, et qui n'en abuse pas, puis c'est ça qui fait l'impact. Les quelques scènes d'action qu'il y a dans le film sont assez marquantes parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Exactement. Je t'en dis, il m'en reste une autre. Il m'en reste une autre dont j'aimerais parler. Surtout, je pense que les gens ont entendu parler parce qu'on parlait de Tarantino tantôt.
Oh.
Une scène de café marquante dans Tarantino. Il y en a énormément. Je pense que la majorité des films de Tarantino se passent dans des cafés. C'est Reservoir Dogs, c'est important, la scène où le type ou le type pas. Mais il y en a une en particulier.
Je suis plus sûr et certain de ça, mais le couple de braqueurs dans Pulp Fiction...
Il y a celle-là, exactement.
Est-ce qu'ils prennent le café ou ils sont juste au restaurant? Je m'en reviens.
Il y a ça aussi, mais je vous dirais que dans Pulp Fiction, celle qui marque le plus les gens, c'est Tarantino lui-même qui reçoit nos deux beaux os couverts de sang le matin en robe de chambre
avec son café,
et qui parle à quel point il va chercher son café loin puis que c'est pas vrai que tu vas y amener un petit café d'à côté puis blablabla. Bref, les gens adore beaucoup cette scène de café dans Pulp Fiction. Et moi, je vais te laisser avec une dernière phrase.
Oui, allons-y.
Damn, that's a good coffee.
Je sais pas.
Twin Peaks.
Ah, ok.
Twin Peaks, bon. Damn, that's a good coffee.
Là, ça, c'est la série télé ou le film?
Moi, j'ai pas vu le film. Okay. Ça se dit beaucoup dans la série télé, mais je serais pas surprise que le Fire Walks With Me.
Oui.
Vu que notre policier se retrouve dedans, probablement qu'il nous sort deux, trois fois un Damn, that's a good coffee.
Alors voilà, c'était notre quiz sur le café, petit quiz matinal.
Et petit, là, on s'entend, je n'ai parlé de 8. Hein. Si les auditeurs venaient nous écrire de leur scène de café, je serais tellement contente. Il y a Amélie Poulain aussi qui est ressortie souvent dans les listes.
Ah, oui,
alors
c'est
si
vrai,
ça vous intéresse de venir nous parler de vos scènes de café favorites, on est là.
Mais oui, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouvera la semaine prochaine, tout le monde, pour notre nouveau Cinébrunch. C'était François Berthion au micro, accompagné de Vicky Langlois. Ça a été un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. On vous souhaite une excellente soirée.